Bienvenue, je suis Aurélie et je suis ravie de t'accueillir dans Post Boost. J'ai débuté ma carrière dans les ressources humaines, c'est mon domaine coup de cœur, celui que je n'ai jamais quitté. J'en connais tous les recoins, les joies, les satisfactions, mais aussi les défis et difficultés. La pression, les exigences des uns et des autres, et toi, au milieu, qui essaye de garder le cap avec le sourire. Alors que tu sois recruteuse, coach emploi ou RH, ce podcast est fait pour toi. J'ai conçu Post Boost dans un seul objectif, vitaminer ta vie de RH. À chaque épisode, je te propose une nouvelle clé pour avancer pas à pas. Le temps d'un épisode, appuie sur pause et profite. Bonne écoute! Bienvenue, tu écoutes l'épisode 9 de Post Boost, comment mieux manager grâce au marketing. Si je me suis lancée dans le podcast, c'est en grande partie grâce à elle. J'ai découvert Estelle grâce au podcast du marketing. Je te raconte. Il y a 2 ans, je vivais en région parisienne et j'empruntais tous les jours la ligne 7 du métro. Celles qui connaissent Paris voient sans aucun doute de quelle ligne je parle. C'est cette magnifique ligne qui traverse Paris du nord au sud et du sud au nord. À l'époque, c'était 55 minutes dans des rames bondées dès 7h30 du matin. J'ai beau être une grande lectrice, j'ai vite compris que les livres, c'était pas gérable. Estelle a donc accompagné tous mes trajets quotidiens. Je crois d'ailleurs que j'ai écouté l'intégralité des épisodes. Alors, quand a germé l'idée de lancer un podcast, c'est évidemment auprès d'Estelle que je me suis formée. Et cette semaine, c'est une immense joie pour moi. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir ma mentor Estelle Ballot. Alors, je peux comprendre, tu dois te dire, mais ressources humaines, recrutement, marketing, je ne vois pas le lien. Et pourtant, il y en a un énorme et c'est notre sujet du jour. Comment mieux manager grâce au marketing. Bonjour Estelle Ballot.
Bonjour Aurélie, ça va?
Ça va très bien et toi? Bienvenue dans Post Boost.
Merci beaucoup, je suis ravie d'être là.
Moi je suis ravie de t'accueillir, parce que mes auditrices ne le savent peut-être pas, mais peut-être que sans toi je ne me serais jamais lancée dans le podcast. Donc pour moi c'est une super fierté de te recevoir dans ce podcast et en particulier dans cet épisode, puisque dans ma carrière à moi, je me suis souvent aperçue en fait que dans les ressources humaines, on avait tendance à toujours opposer marketing et ressources humaines, avec l'idée que les RH, le recrutement, le management, c'était du 100% humain, alors que finalement, le marketing, c'est un peu du chiffre, de la technique et quelque part un peu de la manipulation. Alors toi, tu es une experte du marketing, puisque c'est le domaine dans lequel tu travailles depuis de nombreuses années. Alors vraiment, je suis ravie de t'accueillir pour parler avec toi de notre sujet du jour, comment mieux manager grâce au marketing. Alors, qui es-tu, Estelle Ballot?
Qui est Estelle Ballot? Ça, c'est une vaste question. Écoute, je suis experte, comme tu le disais, en marketing digital. J'ai un podcast qui s'appelle le podcast du marketing, que tu connais bien, et une formation en marketing, en communication digitale. Et puis, je forme surtout des créateurs, des créatrices d'entreprises à s'armer du marketing et du marketing digital plus particulièrement pour pouvoir développer leur activité. Et effectivement, avant d'être à mon compte, j'ai travaillé pendant 10-15 ans en entreprise où j'ai été effectivement manager de nombreuses années. Donc, j'ai un petit peu la double vision marketing et manager en marketing. Et je suis ravie d'être ici avec toi pour pouvoir en discuter parce que c'est un vaste sujet que ce sujet du management.
Oui, exactement. Et du coup, avec chacune de mes invitées, j'aime bien, c'est mon petit moment back to basic, c'est-à-dire retourner à la base. Et j'aimerais bien que tu me donnes, toi, ta définition du management.
Ah, très bonne question, ma définition du management. Alors, je vais te dire ce que je pense que ça devrait être. Ce n'est pas nécessairement ce que je pense que cela est. Mais pour moi, le management, ça devrait être, ou en tout cas le rôle du manager, devrait être de faire grandir et briller ses équipes. Pour moi, son seul job, c'est de donner toutes les armes, tous les outils, tous les conseils ou tout le support d'ailleurs à ces équipes pour que, eh bien, ils puissent s'épanouir dans leur métier, mais s'épanouir au sens de devenir meilleur, avoir le plus de visibilité possible au sein de l'entreprise pour pouvoir développer les projets sur lesquels ils travaillent. Enfin voilà, en gros, c'est censé être un boost, pour utiliser un mot que tu aimes bien, un boost pour les manager.
Ouais, du coup, tu dis c'est censé parce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est assez peu le cas.
Ouais, pour être honnête, je suis assez pessimiste, moi, sur le management, en tout cas en France. J'ai été assez déçue du management. Alors, j'ai été à une très mauvaise école, c'est-à-dire que ma première entreprise dans laquelle je suis restée 7-8 ans, qui m'a vraiment formée, en fait, hein, si tu veux. C'était une entreprise où le management était assez idyllique. Enfin, on en reparlera peut-être, mais c'était vraiment un beau management, très vertueux. Et puis après, j'ai changé d'entreprise. Hein. Je suis allée voir d'autres types d'entreprises, des grosses, des petites, des startups, des internationales. Et je n'ai jamais retrouvé un management. Alors, je n'ai pas eu nécessairement que du très mauvais management, mais j'ai vu beaucoup de management, pas précis, quoi. C'était beaucoup d'approximations, quoi. Beaucoup d'approximations dans le management et beaucoup d'erreurs, et d'erreurs parfois assez... assez évidente quand on le regarde de l'extérieur. C'est toujours facile à dire quand on le regarde de l'extérieur, hein, bien sûr, mais j'ai été assez déçue, ouais, de ce niveau-là.
Du coup, tu parles d'un beau management. C'était quoi ses principales caractéristiques ?
Alors, écoute, c'était une entreprise qui était assez surprenante. C'était une multinationale, vraiment une très grosse entreprise. Je crois qu'à un moment donné, on était 80 000 personnes, hein, dans l'entreprise. Donc, on peut difficilement faire beaucoup plus gros. Et bizarrement, c'est une entreprise qui avait... des valeurs. Je dis qu'il y avait parce qu'elle a été rachetée, enfin, ça a certainement un petit peu évolué depuis, mais en tout cas à l'époque, qui restait une entreprise familiale, ou en tout cas qui fonctionnait comme une entreprise familiale au sens d'une sorte de patriarcat, mais positif, pas patriarcat dans le sens où voilà, on te dit quoi faire, etc., mais au sens du le patriarche, au sens de l'entreprise, hein, est là pour t'aider, te protéger, subvenir à tes besoins et t'aider à grandir. Et c'est ce que je te disais, moi j'étais dans une trop bonne école, c'est-à-dire que tous nos managers, sachant qu'attention, hein, c'était un univers très concurrentiel, c'était pas bisounours. C'est un univers très concurrentiel, avec des contraintes de marché extrêmement difficiles, notamment des contraintes légales très difficiles, des marchés parfois dangereux. On avait parfois des réunions, il y avait des flingues sur la table. Hein, donc, c'était pas du tout Bisounoursland, mais d'un point de vue managérial, il y avait, et ça valait dans l'ensemble des pays, c'est ça qui était assez extraordinaire, il y avait une bienveillance absolue de la part des managers qui... avaient pour seul objectif de faire grandir et de faire briller leurs équipes.
Du coup, toi, tu as baigné dans... Ça a été ta première expérience, du coup. C'est là où tu es devenue manageuse, finalement.
Oui, tout à fait.
Des années où tu y es restée. Ce beau management, finalement, il était dans une entreprise de très grande taille et sur un marché concurrentiel. Donc, ça va un peu à contre-courant de l'idée générale qui est « mais c'est une grosse entreprise, c'est un marché en tension. » Donc, finalement, on n'a pas le temps d'accorder une attention particulière au management parce que l'objectif doit être ailleurs. Là, ce n'était pas du tout le cas dans cette entreprise. Et quels sont les enseignements que tu en as retirés du coup de cette première expérience avec un beau management ?
Eh ben, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que je pense qu'on se plante, moi, mais alors radicalement, quand on se dit « non mais attends, mon business est compliqué, il faut aller vite, il faut machin, il faut ceci, il faut cela, l'efficacité, la rentabilité, etc. Donc, je n'ai pas le temps de faire du management. » C'est exactement pour moi la première des erreurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'une entreprise, c'est des êtres humains. À part là, la nouvelle entreprise, je ne sais plus si c'est les chinoises ou japonaises, où ils ont mis une IA comme PDG là, qui vient de sortir. En général, une entreprise, c'est d'abord des humains. Et si tu n'es pas capable de bien t'occuper de tes équipes et de faire en sorte que tes équipes puissent être dans des conditions qui font qu'elles vont ressortir le meilleur d'elles-mêmes, ça ne peut pas fonctionner. Donc, tu peux rechercher l'efficacité, tu peux rechercher la compétitivité, tu peux rechercher tout ce que tu veux. Si tu ne sais pas soigner tes équipes, pour moi, tu ne peux que perdre. Tu ne vas pas forcément perdre au sens de te cracher en flamme, mais tu seras moins bon que si tu t'es occupé de tes équipes. Et la réalité, c'est quoi ? C'est que l'entreprise dans laquelle je travaillais, c'est une entreprise très compliquée. Parce que les gens, je peux dire peut-être, hein, pour que les gens comprennent dans quelle univers c'était l'univers de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, c'est une industrie évidemment éminemment complexe. On le comprend tout de suite, il y a plein de gens, pour des raisons qui sont tout à fait louables, qui ne souhaitent pas travailler dans le tabac. Ça paraît juste parfaitement évident et complètement normal. Ce qui fait que quand ils souhaitent recruter, ils ont plus de mal à trouver des gens qui souhaitent venir chez eux. Mais c'est une industrie qui est très concurrentielle, qui est très exigeante et qui veut avoir les meilleurs. Les meilleurs voulant pas forcément dire ce qu'on fait HEC, mais ils recherchent des profils vraiment très, de façon très précise, donc ils payent très bien. Je te fais un schéma très stéréotypé, mais enfin la réalité c'est quand même un peu ça. Et donc comme ils ont du mal à recruter finalement, eh bien ils mettent vraiment l'accent sur le management et ils proposent réellement des choses très intéressantes pour que les gens, pour que les bons aient envie de venir et que les bons surtout restent. Et finalement, c'est ça qui fait que ça fonctionne et que, tu vois, moi, cette entreprise-là, je l'ai quittée il y a plus de 10 ans, presque 15 ans maintenant. Et encore maintenant, non seulement je vois des gens de cette entreprise, bon, après tout, c'était ma première entreprise, c'est souvent là que tu te fais des amis pour la vie, hein, en général, mais je continue à aller aux réunions de temps en temps, au déjeuner des anciens, avec des anciens collègues plus ou moins proches. Et 15 ans après, tu as toujours cette notion de famille qui reste, même envers les collègues qui étaient plus ou moins proches. C'est assez étonnant. Et je me dis que, bah, ils avaient tout compris.
Du coup, après, tu as eu d'autres expériences. Pardon, j'ai la voix qui se casse. Après, tu as eu d'autres expériences dans d'autres entreprises et tu as aussi été manager. Est-ce que là, tu as été confronté à d'autres défis que tu n'avais pas rencontrés dans cette première entreprise ?
Écoute, oui, il y a eu une entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Alors là, c'est mon plus gros poste de management. J'avais à un moment donné, j'avais entre 6 et 10 personnes en direct. Et en indirect, je devais avoir une bonne grosse vingtaine de personnes, je pense. Donc, c'était quand même un poste de management assez conséquent. Alors, c'était une entreprise où on n'était pas maltraité, là, pour le coup. Mais j'étais pas... Et ça, c'était très compliqué à gérer et je n'y étais pas préparée, alors que ça paraît, une fois qu'on te le dit, absolument évident. Je ne m'étais pas préparée au fait que je pourrais ne pas être en accord avec la stratégie de l'entreprise. Et quand tu es en middle management, ce qui était mon cas, hein, c'est-à-dire que je manageais des équipes conséquentes, mais enfin, j'avais quand même des directeurs au-dessus de moi. Ce n'était pas moi qui créais la stratégie. Moi, j'étais en application de la stratégie. Je pouvais proposer, je pouvais conseiller, je pouvais apporter des choses, bien sûr, mais il n'empêche que ce n'est pas moi qui décidais de la stratégie. C'est extrêmement compliqué, le middle management. C'est-à-dire que tu dois appliquer des choses auxquelles, en général, tu crois, parce que normalement, les choses sont plutôt bien faites. Voilà, dans un monde idéal, en tout cas, tu te dis que les décisions sont les bonnes. Sauf que parfois, il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises décisions. Ce n'est même pas un jugement de valeur sur les décisions qu'ils prenaient, mais bah, tu as chemin A et chemin B. Et moi, j'étais en totale opposition avec les décisions stratégiques et managériales qui étaient prises. Sauf qu'il fallait que j'applique ça. Et c'est compliqué quand tu dois mettre en place des décisions stratégiques marketing en l'occurrence, qui ne te vont pas, quand c'est des décisions managériales, c'est-à-dire concrètement combien d'heures par jour tu dois faire travailler tes salariés, sur combien de projets tu dois mettre tes salariés, etc. Si tu n'es pas en phase, ça devient assez vite très 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 compliqué.
Ouais, j'imagine que c'est intense et c'est difficile, parce que moi je te connais un petit peu, donc je sais que tu es une personne impliquée, alors j'imagine que tu devais l'être aussi avec tes équipes apparemment. Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution quand tu n'étais pas sur le bon chemin ?
Je n'ose pas dire, parce que je ne peux pas dire que ce soit la bonne solution. Je suis partie. Moi, je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que je suis très entière. Je ne sais pas mentir et je ne sais pas jouer un rôle. Et je suis très empathique au sens positif et au sens négatif du terme, c'est-à-dire que je prends beaucoup les émotions des autres, ce qui fait que quand on est dans une situation qui n'est pas agréable, bah, je prends la détresse des autres. Donc voilà, c'est pas toujours empathique, on a tendance à penser que c'est toujours quelque chose de positif, pas nécessairement. Quand tu es dans une situation où, d'un point de vue humain, éthique et stratégique, t'es pas en accord, nécessairement, tu es assez rapidement malheureux. Enfin, en tout cas, quelqu'un comme moi, je fais pas de grosse distinction entre l'émotionnel personnel et l'émotionnel professionnel. J'ai des émotions au cours de la journée. C'était compliqué pour moi de rester dans un système comme ça qui ne me convenait pas. Et moi, j'ai une philosophie de vie assez simple. Alors, je vais te la livrer très, très clairement. Pour moi, l'objectif de la vie, c'est d'être heureux. Si t'es pas heureux, change les choses. Donc, ça ne me convenait pas et je suis partie. On est partis bons copains d'ailleurs. Hein. Je suis toujours en lien avec les équipes de direction, en l'occurrence. Mais voilà, quand ça ne fonctionne pas, soit on arrive à se mettre d'accord, à discuter et à se dire, bah oui, on peut peut-être changer les choses, trouver des compromis, etc. Soit on n'y arrive pas. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que le chemin A est mieux que le chemin B. Mais bon, quand le chemin ne convient pas, bah, moi, je vais voir ailleurs.
Oui, alors moi, tu connais un peu mon parcours, j'ai fonctionné un peu comme ça. Moi, j'ai des cycles de rotation de 3-4 ans, au bout de 3-4 ans, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que ça bouge. Et je pense que c'est pas un mauvais conseil, c'est-à-dire que Surtout en ce moment, le marché, il est quand même compliqué. La vie quotidienne, elle est bouleversée. Des choses qu'on pensait jamais arriver sont arrivées. Du coup, il y a une espèce de chape de plomb, d'anxiété, de lourdeur, de trucs pas drôles. Et si en plus, au travail, là où tu es depuis longtemps, tu es constamment en challenge, c'est même pas du challenge, c'est un, tu rames à contre-courant pour soit faire adhérer ta direction à tes idées, soit essayer de naviguer en eau trouble. Moi, je suis plutôt du même avis que toi, c'est de dire à un moment donné, ben, si ma planète n'est plus alignée avec la planète entreprise dans laquelle je travaille, ben, partir, des fois, c'est la meilleure solution, et souvent pour soi, et peut-être aussi pour ses équipes. Moi, dans mes expériences passées, j'ai eu des bons managers, et certaines avec lesquelles je suis toujours en contact, et j'ai eu des très mauvais managers aussi. Et malheureusement, je pense qu'on ne forme pas à être manager aujourd'hui, et que souvent, de sa fonction, parce que ça fait un certain temps qu'on y est, bah, paf, on devient manager, un peu comme si c'était l'étape d'après. C'est « Ah, tu étais bien responsable marketing, bah, tu vas devenir manager. » Peut-être que c'était ton cas aussi dans les fonctions que tu as occupées. Et ça pose aussi la question de la formation de ces managers et de ces managers.
Ah bah, c'est un sujet pour moi central, pour tout te dire. Pourtant, mon école s'appelle l'école de management de Normandie. Je leur fais de la pub. Donc, il y a management hein, dans le nom. C'est le cas de beaucoup d'écoles de commerce hein, qu'on management dans le nom. C'est une très bonne école, par ailleurs. Donc, je ne suis pas du tout en train de dénigrer leur programme, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un cours de management. Je ne suis pas sûre de ma vie, de ma carrière, d'avoir eu une formation en management. Je suis devenue manager par miroir. Je dirais que voilà, j'ai vu des managers qui étaient mes managers. Ce qui me plaisait, j'ai essayé de le refaire. Ce qui me plaisait peut-être moins, j'ai essayé de le mettre de côté. Mais ça se fait vraiment comme ça à l'expérience. Et j'ai le sentiment que... Alors, je ne sais pas si c'est en France ou si c'est de façon générale, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, en France, je n'ai pas vu de formation au management. Et c'est un vrai sujet parce que, comme tu dis, c'est un peu c'est l'échelle sociale. Enfin, c'est l'échelle sociale au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu ta promotion en tant que manager, la promotion d'après, c'est de devenir manager. Alors, au début, tu manages une personne. Au début, tu manages un stagiaire, en général, d'ailleurs. Après, tu manages un salarié, puis deux, puis trois, etc. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas parce que tu es un bon... technicien, quelle que soit la technique que tu pratiques, que tu es un bon manager. Et inversement, d'ailleurs.
Ça, je pense que c'est la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à reconnaître qu'un expert, soit il est juste en vie, ou il est juste pour projet de rester un expert, en fait. Et on n'a pas forcément toutes et tous envie de devenir manager. Et c'est un long travail, je pense, de réflexion des entreprises et des organisations et d'envisager aussi qu'il peut y avoir d'autres chemins et pas juste le chemin de, un peu royal de « Ah, t'es devenue manager, génial, bravo Estelle !»
Mais tu sais, je pense que c'est quelque chose que les entreprises devraient regarder vraiment droit dans les yeux parce que moi, je vois... Alors, je ne sais pas si c'est une évolution, je n'ai pas pris les chiffres, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de conséquent. Quand tu regardes le nombre d'indépendants en France... Alors, indépendant, ça veut tout et rien dire. Hein. Mais au sein des indépendants, tu as quand même beaucoup de consultants, de coachs, de formateurs, de gens comme ça qui ont, je dirais, une certaine expérience, plus ou moins d'ailleurs. Mais tu as quand même beaucoup de gens comme ça qui sont dans une seconde partie de carrière et qui avaient peut-être des postes manageriaux. Moi, c'est complètement mon cas, hein, donc je parle d'expérience, qui à un moment donné se disent, bah, finalement, moi, ce que j'aime, c'est mon expertise, c'est le métier que j'ai choisi. Le management, il se trouve que moi j'ai beaucoup aimé le management, pour être complètement honnête, c'est une partie vraiment qui m'a plu, mais qui m'a usée, et à un moment donné je me suis dit ok, c'était sympa, mais maintenant j'ai envie de me recentrer sur mon métier, et donc là bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu sors de l'entreprise et tu deviens indépendant, et tu crées ta propre activité. Il y a 3 millions d'indépendants en France, c'est beaucoup, 3 millions d'indépendants sur je ne sais pas combien il y a de travailleurs en France. On est 70 millions, il ne doit pas y en avoir plus de 20 millions, je dirais, quelque chose comme ça. C'est pas rien, c'est presque 10%, tu vois, c'est autour de 10%, je pense, si on fait le calcul. Ça se regarde, je pense, comme élément, ça, et pour moi, ça dit quand même pas mal de choses sur cette notion du management et le fait que les experts ne sont pas forcément faits pour être managers et surtout n'ont pas forcément envie d'être managers. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on nous a dit que c'était là qu'il fallait aller qu'on en tire du plaisir, tout simplement.
Là, dans ma sphère à moi, c'est-à-dire la sphère des RH en général, évidemment que tu as des recruteurs qui s'installent comme recruteurs indépendants, et tu as de plus en plus aussi de RH généralistes qui se positionnent en tant qu'indépendants. et qui n'ont pas de difficulté à trouver du travail, parce que souvent, c'est l'inquiétude qu'on a de passer du salariat à l'indépendance en disant « Ah, mon Dieu, mais quel risque je prends ?» Et finalement, elles arrivent à trouver des opportunités de mission et des missions intéressantes. Parce que ce qui est compliqué dans une fonction du coup de middle management RH aussi, c'est que tu es un peu toujours le cul entre deux chaises, quoi. Entre qui tu es toi et ce que tu as envie de faire, des directives qui arrivent de ta DRH avec lesquelles tu es plus ou moins en accord, chemin A, chemin B, et puis le quotidien des gens qui viennent vers toi parce qu'ils ont des envies, des désirs, des problèmes, des choses drôles, pas drôles, etc. Et peut-être qu'en effet, la voie de l'indépendance aussi pour les RH, c'est quelque chose qui est à creuser.
Oui, il faut penser aussi à un truc tout simple, hein, c'est que le marché du travail s'est quand même largement retourné. Moi, quand je suis rentrée sur le marché du travail, je vais te donner une indication sur mon âge, on était en 2003. 2003, c'était une des grosses crises. Alors, en plus, moi, j'étais dans le conseil à l'époque. C'était l'affaire Enron, explosion des bulles, des Big Five du consulting. Mais quand bien même, si on pense pas à ce marché très précis sur lequel j'étais, le marché du travail a été très compliqué pendant une bonne grosse dizaine d'années. Là, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins le cas. Le chômage est quand même extrêmement bas, pour plein de raisons diverses et variées, mais il n'empêche qu'il est bien plus bas qu'il y a 20 ans. Et donc, ça donne quoi? Ça donne ce qu'on voit chez les jeunes générations, hein, chez les Z et même les alphas qui vont commencer à arriver bientôt. Donc, les Z, c'est ceux qui sont nés autour des années 2000, quelque chose comme ça. Eh bien, effectivement, ces gens-là, ils se disent, attendez, moi, maintenant, j'ai le choix. J'ai peut-être pas envie de faire tout et n'importe quoi. Ils sont un petit peu plus frivoles. Alors, ça pose plein de problèmes d'un point de vue ou plein de questions d'un point de vue RH. Mais je trouve ça intéressant, moi, à regarder, de se dire, attention, ça veut aussi dire autre chose, c'est que le contexte a changé et que maintenant, créer un emploi ou trouver un emploi, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc, quand on se pose la question, tiens, est-ce que finalement, j'ai pas envie de liberté et d'indépendance, là où il y a 10-15 ans, on pouvait avoir très peur de se dire, est-ce que je vais réussir à créer mon business, à créer mon chiffre d'affaires, etc. Maintenant, finalement, je pense que c'est beaucoup moins la question et je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus d'indépendants arriver sur le marché.
Ouais, je pense que tu as raison. Et aussi, cette idée qui était, oui, mais le marché, une fois que le Covid se sera calmé ou aura disparu, c'est bon, tout le monde va rentrer dans le rang, comme si c'était une espèce, tu vois, d'effet ponctuel. Et finalement, ça a fait tout l'inverse, c'est-à-dire que plein de gens se posent des questions et s'interrogent sur cette différence entre le fait d'être salarié ou d'être indépendant. Et dans le domaine sur lequel moi, je suis en alerte sur l'actualité et les médias, les sphères RH et marketing, elles ont été opposées depuis longtemps. Mais depuis quelque temps, j'entends, je lis, je vois beaucoup plus de choses, de rapprochement du marketing et des ressources humaines. Et en particulier avec l'exemple de l'inbound recruiting, donc peut-être que tu pourras nous en parler si tu as un avis à ce sujet. Mais ce que je voulais savoir, moi, c'est est-ce que toi, tu penses qu'on peut mieux manager grâce au marketing?
Alors, écoute, je ne sais pas si on peut mieux manager grâce au marketing. Ce que je pense, c'est que tu as raison, on les a souvent beaucoup opposés. Le RH, c'était l'humain, et là où le marketing, c'est la manipulation, si je suis ultra stéréotypée manichéenne. Sauf que dans la réalité des faits, ou en tout cas dans ma vision du marketing, il y a de gros points communs entre RH et marketing. Alors, ce n'est pas la même chose, hein, attention. RH, tu es en train de parler de la gestion de l'humain. Marketing, tu es en train de parler de vendre un produit ou un service. Donc, on n'est quand même pas... c'est pas égaux, c'est vraiment pas le même métier. Mais là où tu as des points communs, un point commun fondamental, c'est ce sur quoi ces deux sphères se basent. Sur quoi on va se baser quand on travaille l'humain, les RH et quand on travaille le marketing, c'est sur la psychologie, voire sur la psychologie sociale. En tout cas, la psychologie de les émotions et comment est-ce que les personnes réagissent. Si tu veux être un bon marketeur, la première chose que tu dois faire, c'est comprendre ton audience, comprendre tes clients, comprendre comment ils réagissent. Pas comprendre ce qu'ils veulent, c'est comprendre quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qui les arrête, qu'est-ce qui les embête, qu'est-ce qui les empêche de dormir, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui les... Voilà, c'est ça qui est important. Donc, c'est vraiment rentrer dans la psychologie de la personne. Là où quand tu es manager ou quand tu es RH, c'est pareil. Si tu ne te mets pas à la place des gens avec qui tu travailles, des gens qui font partie de ton équipe, à comprendre eh bien, où vont être leurs problématiques, qu'est-ce qui va les gêner dans leur évolution, qu'est-ce qui va les gêner dans leur disponibilité, etc., bah, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de sens à les opposer et que l'un aide l'autre au sens de bah, tu apprends à finalement à être plus à l'écoute des autres, à capter les moi j'appelle ça des signaux faibles, mais à capter en tout cas les signaux que t'envoient bah, les gens que t'as en face de toi pour essayer de comprendre bah, comment est-ce que tu peux agir, interagir pour aller là où tu veux aller, quel que soit l'endroit où tu veux aller.
Il y a souvent aussi des problèmes entre la façon dont tu vas imaginer concevoir un message et la façon dont l'autre va le recevoir, quand tu es manager et quand tu es RH aussi. Est-ce que tu as des conseils sur ce volet-là de comment bien penser et réfléchir son ouais. message ?
Ouais, moi, c'est une phrase qui boucle dans ma tête parce que ça m'est pas du tout naturel, mais je trouve que c'est extrêmement important, c'est de se répéter, il faut écouter plus qu'on ne parle. Alors moi, je suis très, bah, tu le sais, hein, je suis très pipelette, donc j'ai beaucoup de mal parce que j'ai toujours envie d'en rajouter blablabla et blablabla. Il n'empêche que si tu veux adresser le bon message, à savoir le message qui va être compris par la personne qui t'écoute, que ce soit un client ou que ce soit quelqu'un, un collaborateur, une collaboratrice. Si tu veux que cette personne reçoive le bon message, comprenne ce message tel que toi tu veux le transmettre, eh ben, il faut savoir déjà quels mots cette personne utilise. Et pour connaître les mots que cette personne utilise, il va falloir écouter cette personne, tout simplement. Ça paraît bête à dire, hein, comme ça, mais c'est vraiment ça, on a tous des champs lexicaux différents. Et c'est encore plus vrai dans le management, parce que dans le management, tu es dans des sphères professionnelles, bien souvent relativement techniques, hein, on a tous un jargon qui nous est particulier, quel que soit le métier qu'on pratique. Et donc, le vocabulaire a un vrai impact. Et un mot dans un métier ne voudra pas du tout dire la même chose, avoir le même sens dans un autre métier. Donc, c'est extrêmement important, je pense, de savoir écouter les gens, non pas, alors, bien sûr, pour entendre leurs problèmes, pour les comprendre, etc., mais pas que. C'est aussi pour comprendre leur vocabulaire, les mots, les lexiques qu'ils utilisent, de façon à utiliser ce lexique-là pour être entendu et pour être bien entendu.
Ok. Donc, si je récapitule, le premier point commun, c'est ça se base, et le marketing et l'RH, la psychologie en particulier, la psychologie sociale. L'idée, c'est d'aller écouter les doléances, les problèmes, en tout cas trouver les problèmes de son audience, donc de ses collaborateurs ou des membres de son équipe. Pas juste « j'ai un problème de congé », par exemple, mais qu'est-ce que veut dire « j'ai un problème de congé »
C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Mais oui, mais c'est comme tout. Et en ça, c'est exactement la même chose avec le marketing. Bien souvent, on s'arrête à « quel est le problème qui fait que ce client va avoir besoin d'un produit ?» Ok, très bien, c'est intéressant comme information. Hein. En soi, c'est intéressant. Sauf que c'est jamais ça la réponse. La réponse est toujours en marketing, il y a quelque chose derrière qui fait que cette personne ressent la problématique comme ça. C'est exactement la même chose en RH. Pourquoi est-ce que cette personne a une problématique sur ses congés ? Il y a certainement quelque chose d'autre derrière. Alors après, la difficulté quand tu es en RH, c'est où se place la vie privée de la vie publique et jusqu'où est-ce que tu peux aller ? Bien sûr, attention, encore une fois, on n'est pas en train de parler d'un produit. Mais en tout cas, il faut, à mon avis, avoir un esprit suffisamment ouvert et surtout être suffisamment à l'écoute pour aller décrypter le problème réel et toujours se poser la question, est-ce que je suis arrivée au bout de la problématique ? Quand je dis le mot problème, ce n'est pas forcément un problème au sens négatif, hein, c'est une problématique, un questionnement, un besoin, peu importe. Mais en tout cas de s'assurer qu'on est bien allé au bout de cette problématique. Et puis la deuxième chose, et c'est deux choses distinctes, c'est d'entendre la façon dont la personne parle pour pouvoir parler de la même façon, de façon à être compris par cette personne.
C'est hyper clair. Donc il y a plein de ponts à faire entre le marketing et les ressources humaines. Je pense comme ça, on n'en avait pas parlé, mais parce qu'on prépare hein, quand même ces étudiants, on ne s'appelle pas comme ça. Et oh, ça va Estelle ? Oui, et toi ? Très bien. Donc blague à part, du coup je suis en train de penser à un truc, je me dis, c'est souvent dur de prendre la parole sur les réseaux sociaux, comme sur LinkedIn par exemple, quand tu es dans une fonction RH généraliste, où tu peux avoir aussi à recruter, où tu peux avoir envie de communiquer sur ton entreprise. Quels sont les petits conseils que tu donnerais de marketing sur ces personnes-là qui voudraient communiquer sur leur entreprise ? Parce qu'il y a toujours la peur ou l'inquiétude de faire trop du corporate et du coup qui est un peu fade. ou alors de trop parler de soi et du coup de basculer un peu du côté obscur de la force.
Ah, c'est un sujet super intéressant, on pourrait faire tout un épisode de podcast là-dessus.
C'est trop beau,
ça s'appelle la marque entreprise, hein. On dit ça maintenant, on en parle beaucoup de cette marque entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est encore en lien avec ce basculement du marché où les entreprises ont peut-être plus de mal qu'avant à recruter, donc c'est aussi à elles de venir être un produit marketing, attirer finalement leurs futurs salariés. Donc c'est important qu'une entreprise, au sens global du terme et au sens stratégique, en amont de toute communication, est construit ou est réfléchi sa marque entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise, en tant que personnification de l'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise a à dire? Comment est-ce qu'elle dit les choses? Quel est son objectif? Quel est son rôle, peut-être aussi sociétal? Quel vocabulaire elle utilise? Enfin, il y a vraiment tous ces éléments qui sont les éléments, on appelle ça le brand caractère en marketing, c'est-à-dire que tu vas aller personnifier une marque. Et en fait, une entreprise, ce n'est jamais autre chose qu'une marque. C'est une marque quand elle vend ses produits, ses services, mais c'est une marque aussi quand elle se vend auprès de ses futurs salariés. Et là, tu croises ça avec ce qu'on appelle le personal branding. Le personal branding, c'est donc le fait que toi, moi, de façon individuelle, on va aller s'exprimer et donc on va avoir une image, une réputation qui va transpirer dans notre réseau. Les gens vont nous voir, qu'ils nous connaissent ou qu'ils ne nous connaissent pas d'ailleurs directement, ils vont avoir une image, une idée de nous. Donc là où ça se croise, c'est si toi, Aurélie, demain, tu veux parler d'un point de vue corporate de ton entreprise, comment est-ce que tu en parles? Et pour pouvoir savoir comment est-ce que tu en parles et que ça ne tombe pas comme un truc un peu lourd qui sonne faux, etc., il faut déjà que ton entreprise, elle ait construit cette marque personnelle et elle ait su te la communiquer clairement, te la transmettre, te faire comprendre, et ben voilà, comment est-ce qu'elle s'adresse, ce qu'elle dit, quel est son message, ce qu'elle veut porter. Et ça, tu dois le coupler avec toi, Aurélie, ce que tu veux transmettre aux autres et quelle réputation tu souhaiterais avoir. Parce que je te rassure tout de suite, une réputation, tu en as déjà une, que tu fasses du personal branding ou pas, que tu le bosses, tu en as déjà une. Et deux, désolée Aurélie, si tu veux te dire, mais moi je vais tout décider, je vais avoir un personal branding, je vais faire comme ça, comme ci, comme ça. Désolée, ça ne marche pas, hein, la réputation, ce n'est pas toi qui l'a choisi finalement. Non, tu peux l'orienter. C'est là où c'est intéressant le personal branding, c'est que tu vas pouvoir orienter les choses, mais tu t'en seras jamais maître. Donc partant de là, en te disant, je vais pouvoir orienter, tu vas quand même réfléchir à quels sont les éléments dont tu vas parler, ceux dont tu ne vas peut-être pas parler, parce que tu as le droit d'avoir une sphère personnelle aussi. Quel lexique tu vas utiliser, quel message tu vas vouloir porter. Et là, l'idée, pour que ça fonctionne en fait, il va falloir faire travailler ensemble et cette image d'entreprise et cette image de personal branding et trouver en fait les atomes crochus pour que ça sonne juste. Sinon, si ton entreprise a une éthique ou des valeurs qui sont totalement à l'opposé des tiennes, tu pourrais essayer d'en parler, hein, mais ça ne sonnera jamais complètement juste.
Oui, ça je pense que tu as raison. On en revient à l'exemple de quand c'est plus aligné, il vaut mieux s'en aller en fait. Hein, mais
clairement.
Je dirais à tout le monde de partir, mais en tout cas, c'est une bonne idée. Par contre, je crois que tu avais fait un épisode du podcast du marketing sur le brand caractère, donc je mettrai le lien dans l'épisode, parce que je pense que c'est un excellent premier niveau d'info pour celles qui se disent « Ah mais oui, en effet, on essaie de communiquer sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, hein, et ça ne marche pas, mais peut-être que ça ne marche pas parce qu'il manque cette première étape de réfléchir au brand caractère de son entreprise. Et finalement, on peut aussi ne pas être spécialisé en service marketing. On peut aussi être dans une entreprise où il n'y a pas de service marketing. Et il n'empêche qu'on peut quand même réfléchir à ça. Et
je pense que
cet épisode-là, c'est une bonne ressource. Ok.
Non, j'allais dire, faut comprendre une chose, hein, c'est que même si on n'est pas spécialiste du marketing, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire du marketing. Il faut savoir, je le dis parce que je sais que c'est une chose que beaucoup, beaucoup de gens pensent. Beaucoup de gens se disent, je n'ai pas fait d'école de commerce, donc je ne peux pas faire de marketing. Il faut que vous compreniez une chose. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc je vous le dis de l'intérieur. Il faut comprendre une chose. Le marketing, il n'y a vraiment pas grand-chose de très compliqué, de très technique là-dedans. C'est beaucoup, beaucoup de bon sens. La seule chose, c'est que les marketeux, moi y compris, inconsciemment un petit peu, hein, créent beaucoup de termes bien compliqués pour parler de choses qu'on connaît déjà. Typiquement, personal branding, c'est un terme très marketing qui veut juste dire réputation. Donc, sachez que le marketing, c'est très abordable, très facile, très accessible à toutes et à tous. C'est juste que pour garder un petit peu voilà, leur chasse gardée, les marketeurs comme moi, ils inventent des noms compliqués pour que les gens ne comprennent pas. C'est juste ça.
C'est du jargon ?
Absolument. Comme dans tous les types de métiers, c'est du jargon. Voilà, c'est notre chasse gardée.
D'ailleurs, je fais une aparté qui n'a rien à voir, mais si, avec le jargon. Je ne sais pas si tu connais l'humoriste qui s'appelle Karim Duval.
Non.
Qui croque, Bon, Karim Duval ne mange rien, mais fait des vidéos hyper drôles sur l'univers de la start-up, du conseil, du marketing. Donc voilà, je m'étais engagée à ne recevoir que des expertes dans Postboost. Je dois avouer que si quelqu'un dans cette audience a un contact avec Karim Duval, je veux absolument le recevoir sur Postboost. Ce serait le seul homme invité, mais vraiment, ça a été mon coup de cœur de l'année. Le coup de cœur humour, vraiment, Karim Duval, j'essaierai de retrouver des épisodes emblématiques sur le management et le marketing, mais il met très bien en avant le fait qu'on jargonne beaucoup et que finalement, le jargon, ça rassure ceux qui le partagent et ça fait fuir les autres. Et en fait, c'est dommage parce que finalement, on fait beaucoup, beaucoup de marketing et sans le savoir.
Bien sûr.
Mais de manière assez intuitive. Après, pour s'améliorer, il faut un petit peu de cadre et un petit peu de connaissances différentes, mais on peut très bien commencer à travailler sur cette image de marque, du coup, ce brand caractère de l'entreprise.
Absolument.
Ok, je vais te poser une dernière question, Estelle, qui est la question signature de toutes mes invitées. C'est quoi pour toi une post-boost ?
Alors, j'ai une post-boost ça va faire un peu mamie. Je ne sais pas si ça fait mamie, en fait, j'en sais rien. Moi, je suis une Parisienne, hein. Je suis née à Paris, je vis à Paris, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais enfin, je vis à Paris. Je suis sur le point de déménager et de changer de vie pour partir vivre à la campagne, parce que je suis une Parisienne qui n'a pas de peau. Moi, je déteste le béton et j'adore la nature et j'ai besoin de grands espaces. Donc, ma post-boost actuellement, puisque je suis toujours à Paris, j'ai la chance d'avoir un petit peu un extérieur. Ma pause boost que je fais plusieurs fois dans la journée, c'est d'aller dans mon jardin armée. Alors, je ne suis pas du tout bonne jardinière, hein, je n'y connais absolument rien. C'est YouTube qui m'apprend le jardinage, moi, donc voilà. Mais je suis à peu près toute l'année, alors que ce n'est pas du tout toute l'année qu'il faut le faire, armée de mon sécateur. Et quand j'ai fini un projet, quel qu'il soit, je me promène dans le jardin et je coupe des trucs complètement au hasard. Mais ça me rend heureuse, voilà.
Donc, est-ce que ça repousse après ou pas ? C'est ça le truc ?
Ça dépend, écoute, j'ai un olivier qui n'est pas heureux de la façon dont je l'ai coupé, mais il y en a d'autres qui sont contents, donc voilà. Mais bon, moi, ça me détend.
Ça te fait du bien ?
Ça me fait du bien.
Ça déconnecte le cerveau ?
Ouais, puis je pense que ça fait un peu gnangnan de dire ça, mais je pense que, tu vois, alors en tout cas, moi, je suis sur un métier où je suis quand même très statique et face à un ordinateur, un écran, etc., à réfléchir toute la journée. De sortir et de toucher la nature et de revenir à un truc un peu plus brut, je pense que ça fait du bien au cerveau. Je ne sais pas te dire ce que ça doit activer, de l'ocytocine ou de j'en sais rien, mais je pense qu'il y a un truc humain ancré en nous qui dit, à un moment donné, tu as besoin de toucher un arbre pour te sentir bien. Quoi. Je ne fais pas de câlin aux arbres encore, peut-être ça viendra.
Tu n'es pas experte en câlinothérapie d'arbres ?
Non, pas encore.
Dans ta nouvelle vie, peut-être tu vas associer marketing et câlinothérapie des arbres, on ne sait pas. Je n'ai rien contre les câlinothérapeutes d'arbres.
Hein, je te tiens au courant si je lance ça.
Tu me dis ça, on fera un autre épisode. Écoute, je serais ravie, tu me parles de la câlinothérapie des arbres. Ok. Merci en tout cas de nous avoir donné ton avis sur cette question entre le marketing et les RH, les RH et le marketing. Quelles sont tes prochaines actualités, Estelle ?
Écoute, moi, donc comme tu le sais, hein, j'ai le podcast du marketing. Donc, toutes les semaines, je propose un épisode avec une stratégie qui est ultra concrète pour aider les créateurs, créatrices d'entreprises à développer leur business. Sauf que le podcast, c'est un exercice qui est assez solitaire. Tu vois, tu enregistres, tu le sais, hein, tu enregistres soit avec un invité, soit seul un peu derrière ton micro, mais tu n'as pas ce lien direct avec les personnes qui t'écoutent. Donc moi, ce que j'aime bien faire, je le fais 2-3 fois par an, c'est j'organise ce que j'appelle une masterclass sur un sujet précis, et c'est en live, c'est en direct, et tout le monde peut venir, il suffit de s'inscrire, hein, mais tout le monde peut venir et surtout poser les questions en direct. Et c'est un moment où on peut vraiment échanger et aller un peu plus en profondeur sur un sujet, parce que ça dure, en général, ça dure 2 heures. Des fois, je fais 2h30 parce que je suis un peu trop pipelette, mais j'essaye de le faire tenir en 2 heures. Et là, j'en ai une de masterclass que j'ai prévue qui arrive cette semaine, enfin en tout cas dans les prochains jours. Je vais avoir 2-3 sessions différentes. Et l'idée, c'est de parler d'un sujet, je pense que c'est la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment est-ce que je fais pour que mes futurs clients, sachent juste que j'existe. La base de la base, avant même qu'ils aient envie de bosser avec moi, bah, c'est qu'ils sachent que je suis là. Et je pense qu'on s'est tous posé la question, en tout cas toutes les personnes qui ont lancé leur activité, en solo ou pas d'ailleurs, c'est comment je fais pour que mes clients, voilà, ils me voient, parce qu'on est quand même nombreux en général sur la toile et de façon générale. Et donc voilà, bah, sur 2 heures, on va discuter de ça et trouver des solutions. Moi, notamment, j'ai 3 piliers de communication sur lesquels j'articule mes communications de façon générale pour être sûr d'être super visible de ses clients. Donc, on va parler de ça. Donc, si ça vous intéresse, si vous posez ce genre de questions, je vous accueille avec plaisir et on pourra papoter tranquillement pendant 2 heures autour de ce sujet-là.
Ok, parfait. Ben, je mettrai les notes d'inscription dans le... je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Elle n'est pas compliquée, cette phrase, hein, mais je ne sais pas. Il faut être honnête, on enregistre, c'est vendredi après-midi. On est un peu fatigué de la semaine quand même, donc on a un peu la langue qui fourche, mais on va y arriver. Ben cool, donc cette masterclass, c'est début octobre, donc je crois que c'est la semaine du 3 octobre. Et après, si on veut te suivre, comment on fait, Estelle ?
Alors écoute, il y a 2 endroits. Si on veut m'entendre, c'est le podcast du marketing, lepodcastdumarketing.com. Je ne peux pas faire plus simple. Je crois qu'on en est à peu près 150 épisodes. Donc, si vous avez envie d'entendre des choses sur le marketing, vous avez de quoi vous occuper. Et puis, si vous voulez échanger plus en direct avec moi, le meilleur endroit pour moi, c'est LinkedIn. Vous tapez Estelle Ballot dans la barre de recherche. Normalement, vous allez tomber sur une photo de moi.
Bon, bah cool. Merci beaucoup, Estelle. J'étais ravie de t'accueillir. Et je te prends au mot pour les 2 potentiels futurs épisodes, celui où tu vas devenir calinothérapeute d'arbres en Normandie, et puis un autre où tu pourrais nous parler de brand caractère et de personal branding du recruteur.
Écoute, avec grand plaisir, surtout calinothérapie, si je le fais, on fait l'épisode.
Ah t'inquiète, ça, c'est prévu au programme. Mais merci beaucoup Estelle.
Merci à toi Aurélie, c'était un plaisir.
Super, à bientôt.